L'expression « pour tous » a été mise un peu à toutes les sauces depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Il y a eu évidemment le mariage pour tous, qui a suscité beaucoup d'émotions en France, qui a donné lieu à la manif pour tous. Et alors j'ai regardé un petit peu sur internet les expressions que l'on pouvait trouver avec les mots « pour tous ». Et j'ai dû arrêter la liste au bout d'un moment parce qu'il y en avait trop. L'avenir pour tous, les vacances pour tous, le français pour tous, l'école pour tous, les maisons pour tous, le sport pour tous, la santé pour tous, les recettes de cuisine pour tous, l'informatique pour tous, les grèves dans les transports pour tous. Ah non, ça barre, non, c'était... ça c'était juste cette semaine, voilà. Eh bien, puisque la formule « pour tous » est à la mode, permettez-moi d'ajouter une formule qui sera notre thème de ce matin, la prière pour tous. On trouve très exactement cette expression dans la Bible. Je vous invite à la lire dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, et nous allons lire les 15 versets de ce chapitre. Presque tout à la fin de la Bible, dans les dernières lettres que l'on trouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, après la venue de Jésus, les églises commencent à se développer et Paul adresse une lettre à Timothée. 1 Timothée, je ne sais pas si... Tout le monde a une Bible, sinon vous pouvez peut-être suivre avec un voisin ou simplement écouter la lecture. 1 Timothée, chapitre 2. C'est Paul qui parle et il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé, mais c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Ce texte est un des textes peut-être les plus difficiles, peut-être les plus difficiles à entendre aujourd'hui, et nous n'allons pas éviter les questions importantes que nous pose ce passage. Et pour prendre le temps de le méditer, je vous invite à le faire en deux temps. Ce matin, nous allons lire et méditer ensemble les versets 1 à 7. Et puis dans deux semaines, lors d'une prochaine prédication, les versets 8 à 15. Mais un même thème unit ces 15 versets, c'est celui de la prière, et en particulier de la prière pour tous, qui est le thème de ce matin. Donc ce matin, nous allons regarder les 7 premiers versets, qui sont un encouragement, une exhortation commune aux hommes et aux femmes, chrétiens, chrétiennes, ensemble. Et dans 15 jours, nous verrons des encouragements ou des exhortations particulières pour les hommes et pour les femmes dans l'église d'Éphèse, et nous essaierons de voir ce que cela peut nous apprendre et nous enseigner pour nous aujourd'hui, dans un contexte au XXIe siècle où les relations hommes-femmes ont bien changé depuis les propos de l'apôtre Paul au 1er siècle. Alors, concentrons-nous ce matin sur les versets 1 à 7. Et là aussi, je diviserai mon propos en deux moments. Nous allons regarder les deux premiers versets d'abord, qui posent un petit peu le cadre, et ensuite les versets 3 à 7. Je relis ces deux premiers versets. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » L'apôtre Paul écrit ici à Timothée, son collaborateur, on pourrait même dire son fils spirituel, celui qu'il a vu naître dans la foi en Jésus-Christ, qui a assisté peut-être à son baptême, ou en tout cas à la manière dont l'Église a encouragé Timothée dans sa mission, dans son appel, dans sa vocation d'évangéliste, d'enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui a particulièrement à cœur l'annonce de l'Évangile et la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et là, Paul lui adresse une lettre personnelle, probablement lue dans les églises, hein, qui n'était pas seulement pour Timothée, mais pour être lue aussi dans les églises, en particulier à Éphèse, où Timothée est à ce moment où Paul lui écrit. Le thème de cette lettre que Paul écrit à Timothée, c'est celui du combat spirituel, du combat dans la foi, combat le bon combat de la foi. C'est ce que Paul dit au chapitre 1 et au verset 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et Paul reprend ces éléments-là au verset 18, toujours au chapitre 1. « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et Paul parle après de quelques personnes qui ont laissé de côté cette bonne conscience et qui les a entraînées à la dérive dans leur foi elle-même. Je reviens au verset qui nous intéresse ce matin, chapitre 2 et versets 1 et 2. Paul donne ici une première recommandation au jeune Timothée. Quelle est cette recommandation? C'est la prière. Paul dit, j'encourage donc avant tout, premièrement, que l'on prie, voilà, avant tout. Prier devrait être la priorité de Timothée. Timothée, si tu veux avancer dans la vie chrétienne, si tu veux avancer dans ton service pour Dieu dans l'église d'Éphèse, prie. Prie. Prier, c'est la priorité pour Timothée. Mais prier, c'est aussi la priorité pour les chrétiens d'Éphèse. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, vous voyez cette formule large, générale, qu'on fasse des demandes, qu'on prie. Priez, frères et sœurs, qui êtes à Éphèse. Et on pourrait en arriver à dire, prier devrait être la priorité des chrétiens aujourd'hui. Et nous aussi, qui sommes ici au Blanc-Ménil, prier devrait être notre priorité. J'encourage donc avant tout que l'on prie, dit Paul. Alors, j'aimerais qu'on se pose trois petites questions. Prier, d'accord, mais prier quoi ? Que dire ? Et puis, pour qui prier ? Et enfin, pourquoi ? Dans quel but ? Quel est le sens de cette prière ? Regardons rapidement ces trois questions. Quoi prier ? Que dire ? Eh bien, Paul nous dit au verset 1, faites des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. La prière sous toutes ses formes. Prier, nous l'avons déjà vu tout au long de cette année, où notre thème, qui se trouve ici sur ce beau panneau, « Seigneur, apprends-nous à prier », nous avons déjà dit que la prière est une réponse à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons dans ce texte que cette réponse n'est pas toujours la même. Elle n'est pas stéréotypée. Elle n'utilise pas toujours les mêmes mots, les mêmes formules. Prier par des demandes, des supplications, des remerciements. Il y a une diversité dans la prière, dans la vie de prière. Voyez la richesse du vocabulaire que Paul utilise ici. Il aurait pu dire « prier » tout simplement. Non, il prend soin de donner quelques exemples des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce. La liste n'est pas terminée. On aurait pu ajouter des prières de confession, des prières de louange, etc. La liste n'est pas exhaustive. Lisez les psaumes, vous avez au moins 150 prières différentes dans les psaumes, dans des styles différents. On interpelle Dieu, on crie à lui, ou alors on est plutôt dans le silence. Regardons rapidement ces différents aspects de la prière. Les demandes, Paul le met en premier, et c'est peut-être parce que, naturellement, lorsque l'on prie, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Prier, c'est d'abord s'adresser à Dieu pour lui demander quelque chose. Nous sommes dépendants de notre Père Céleste, un autre aspect de la vie de prière que nous avons déjà vu cette année. Et là, il ne s'agit pas d'une dépendance infantile, mais d'une dépendance créationnelle. J'utilise un mot un petit peu barbare là. Dieu est notre créateur et nous sommes ses créatures. Prier, c'est donc se mettre devant Dieu qui est notre créateur et nous rappeler que nous sommes ses créatures. Nous ne sommes pas au même niveau que Dieu. Et nous ne sommes pas au même niveau que Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu nous écrase, mais que Dieu nous rappelle que nous sommes faits pour lui, à sa gloire. Nous sommes faits par sa volonté. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et donc, puisque nous sommes ses créatures, nous venons devant lui pour lui demander, lui qui est notre créateur, qui est parfaitement bon, qui veut nous donner de bonnes choses, nous lui demandons dans la prière ces bonnes choses. Paul utilise ensuite le mot « prière » qui peut recouvrir toutes sortes de prières, par exemple des prières d'intercession, des demandes qui peuvent être répétées. Paul parle aussi d'action de grâce ou de prière de reconnaissance. C'est lorsque nous disons merci, merci à Dieu pour ce qu'il fait. Par exemple, en réponse à nos prières, nous en avons eu quelques exemples, quelques témoignages tout à l'heure. Dieu répond aux prières. Dieu répond à nos prières. Remercier Dieu, c'est aussi plus généralement lui dire merci pour toute son œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Alors peut-être nous pouvons nous arrêter, quelques instants ici pour nous poser cette question. Est-ce que nous aussi, nous formulons à Dieu nos prières dans toute leur variété ? Réfléchissez quelques instants à ce que vous dites quand vous priez, si vous priez. Moi, j'ai remarqué parfois que c'est les mêmes formules ou les mêmes mots qui reviennent. Peut-être nous avons besoin, au moins à certains moments, d'élargir un peu notre vie de prière. Attention à ces refrains qui reviennent dans nos prières. Quelques exemples de mots ou d'expressions variées dans la prière. Merci, j'en ai déjà parlé. Je t'aime, Seigneur. J'ai confiance, même si c'est difficile en ce moment. Ou alors, je doute, viens à mon secours. Délivre-moi. Combien de psaumes appellent Dieu pour une délivrance? Regarde cette injustice et réponds-moi. Fais justice. Le témoignage de Simon nous rappelle tout à l'heure que quand on essaye de faire justice par nos propres moyens, on est dans une impasse. Dieu, lui, est parfaitement juste. Autre prière, je souffre. Ou bien, j'ai peur. Rassure-moi. Nous pouvons dire à Dieu notre détresse, notre confiance, nos doutes, nos erreurs, nos souffrances, de différentes manières. J'encourage donc, dit Paul, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. La prière sous toutes ses formes. Deuxième question. Prier, oui, mais pour qui? C'est ce que Paul dit à la fin du verset 1. Des prières pour tous les hommes. Et au début du verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Si nous savons pour qui prier, cela peut nous aider à savoir quoi dire dans nos prières. Des fois, on ne sait pas toujours quoi dire. Il y a des prières spontanées qu'on balbutie un petit peu comme ça. Parfois, quand on a un sujet de prière ou quand on a quelqu'un en tête pour qui prier, eh bien, ça nous permet de fixer notre attention sur une personne ou sur une situation particulière. Eh bien là, Paul nous dit « Priez pour tous les hommes ». La prière pour tous. Et là, le mot « homme », c'est le mot « être humain », le mot général. « Priez pour tous les hommes ». Les femmes, tous les êtres humains de cette terre. Peut-être naturellement notre réflexe, c'est de prier pour nous. Je prie pour moi. Eh bien, l'objectif de Dieu, en tout cas tel que je le comprends dans le texte que nous lisons ce matin, c'est peut-être, à travers l'encouragement de Paul ici, d'élargir notre vie de prière. Souvent, la prière, ça part d'ici, dans les tripes ou dans le cœur, et puis ça sort entre Dieu et moi, et Dieu nous dit, mais regarde aussi autour de toi, et que ce mouvement de la prière qui sort de nous puisse s'élargir et regarder loin à l'horizon. C'est ça la prière, un mouvement intérieur qui sort, une expression de louange, de reconnaissance, de doute, de souffrance, adressée à Dieu, et aussi pour tous les hommes. Je peux prier pour moi, et puis prier pour les frères et sœurs de l'Église, l'Église locale, et puis prier pour l'Église dans le monde entier, et puis prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes. La question que Paul nous pose ce matin, c'est jusqu'où porte notre prière ? Il n'est pas facile de prier pour des inconnus. Il n'est pas facile. On peut prier avec des formules générales pour le monde entier comme ça. Seigneur, fais qu'il y ait moins de souffrance dans le monde. Voilà, une prière pour le monde entier qui est générale. Mais qui peut devenir aussi une formule un peu type pour nous rassurer qu'on a prié pour le monde et on revient à des prières plus centrées sur nous. Comment faire alors? Dieu nous invite ici dans ce texte à revoir peut-être nos sélections. Pour qui prions-nous ? Pour qui prions-nous ? Parce que Paul nous dit « Priez pour tous les hommes, sans limite, sans critères basés sur le sexe, le statut social, le pays d'origine, ou savoir si la personne est chrétienne ou non chrétienne. Priez pour tous les hommes. » Alors bien sûr, aucun de nous qui est ici ce matin dans cette salle ne peut nommer chaque être vivant dans ses prières. C'est impossible. On ne peut pas prier pour chaque être humain ici vivant sur cette terre aujourd'hui. On n'en aurait ni le temps ni la capacité de penser. Et pourtant, Paul nous dit « prier pour tous les hommes ». Ce qui veut dire que chacun d'entre nous est invité à repousser les limites de sa vie de prière telle qu'elle est aujourd'hui. Nous ne prions peut-être pas mal aujourd'hui, mais nous ne regardons peut-être pas assez loin. Dieu nous invite à repousser les limites de notre vie de prière, là où nous avons peut-être fixé nous-mêmes des barrières selon certains critères, ou peut-être selon certains mérites. Peut-être nous pensons qu'il y a des personnes qui méritent qu'on prie pour elles, et d'autres non. Eh bien ici, Paul nous dit « Priez pour tous les hommes, même ceux qui ne le méritent pas à nos yeux. » Et souvenons-nous que personne, nous y compris, ne mérite la faveur de Dieu. Dieu nous a fait grâce et veut faire grâce à tous les hommes. C'est ce que Paul va développer par la suite. Paul dit aussi « pour les rois et ceux qui sont en position d'autorité », c'est-à-dire les hommes politiques, les personnalités politiques. À l'époque, c'est l'empereur qui est à Rome, l'Empire romain, qui domine le monde de l'époque et dont la nation juive est un petit enclos qui préserve quelques lois, quelques coutumes locales, mais qui est sous la domination des Romains. Il n'y a pas grande liberté à l'époque. Priez pour les hommes politiques à l'époque à Éphèse, ou pour nous aujourd'hui en 2014, eh bien mes amis, c'est prier essentiellement pour des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. C'est prier essentiellement pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et il n'est pas naturel pour nous de prier pour ceux qui nous gouvernent, parce que ces personnes nous imposent des règles, ces gens nous imposent des impôts. Les hommes politiques peuvent finir par dominer les peuples, les dictateurs. Il n'y a qu'à allumer sa télé ou son poste de radio pour se rappeler ce qui se passe dans le monde, en tout cas dans les endroits du monde qui sont les plus médiatisés. Cela n'est pas naturel. Et c'est pour cela que Paul précise dans quel sens nous pouvons prier pour les personnalités, les personnes politiques. Et c'est la troisième petite question. Quoi prier ? Pour qui prier ? Dans quel sens ? Dans quel but prier ? C'est ce que Paul dit ici à la fin du verset 2. « Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Paul ne dit pas ici que si nous prions pour les hommes politiques, nous n'aurons aucun problème. Nous vivrons tranquille, nous aurons une petite vie pépère et nous ne serons inquiétés en rien. Paul utilise deux formules ici. Que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, ça c'est la première formule. Et si on n'avait que cela, on pourrait se dire, ben, si j'ai ma maison, si je peux être dans mon jardin, si j'ai des voisins à peu près tranquilles, si le maire prend des décisions qui sont pas trop mal, si je paye pas trop d'impôts, je suis tranquille. Mais Paul ajoute, en toute piété et dignité ou respect. C'est-à-dire que au cœur de cette vie paisible qui est souhaitée dans la société, il y a la foi des chrétiens. Et dans ce sens, chrétiens et non-chrétiens partagent ce même désir de vivre dans une société calme, respectueuse des autres, c'est ça la tolérance, sans discrimination. Et les autorités jouent un rôle très important pour satisfaire ce sentiment de liberté, égalité, fraternité. Vous connaissez bien cela, ici en France. Nous savons que ce calme et cette tranquillité sont imparfaits. Mais chrétiens et non-chrétiens aspirent à ce calme et à cette tranquillité. Mais Paul ajoute « en toute piété et respect ». C'est-à-dire que l'objectif n'est pas seulement d'être tranquille dans son jardin ou dans son appartement, mais de pouvoir rendre un témoignage dans cette société, un témoignage chrétien. Et Paul dit, il est en train de dire que les autorités sont au moins en partie garantes du témoignage des chrétiens dans la société. D'où la nécessité de prier pour les autorités. Prier pas seulement pour qu'elles nous laissent tranquilles ou qu'elles nous laissent faire notre petit culte ici, mais prier pour qu'elles garantissent des conditions de vie qui nous permettent d'annoncer l'Évangile, qui nous permettent de parler de Jésus avec nos collègues et de ne pas être inquiétés si nous nous réunissons en public pour louer le nom de Jésus. Premier point donc, la prière pour tous les hommes, pour les rois, pour les autorités. Pourquoi ? C'est ce que Paul développe dans la deuxième partie. La prière en vue du salut pour tous. La prière pour tous, le salut pour tous. Relisons ensemble le verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, verset 4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai déjà un peu posé la question, pourquoi prier, dans quel but prier ? Paul développe ici cette idée. Si Paul nous encourage à prier, après les chrétiens d'Éphèse, c'est aussi nous qui sommes concernés, c'est à cause du plan de salut de Dieu. Prier, c'est entrer dans la démarche d'un Dieu sauveur. Paul l'appelle comme ça, ici. Dieu sauveur. Et ce Dieu, pourquoi est-il appelé sauveur ? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pensez que le monde ne tourne pas rond ? Dieu aussi. Vous pensez qu'il y a trop d'injustices, qu'il y a des injustices ? Dieu aussi. Vous pensez que le mal n'est pas normal ? Dieu aussi. Vous pensez que le bien doit l'emporter ? Dieu aussi. Vous pensez que le mal et la mort ne devraient pas exister ? Dieu aussi. Vous pensez qu'il y a trop de chômage, trop de précarité, trop de discrimination ? Dieu aussi. Il y a quelques jours, j'étais à une cérémonie d'enterrement et plusieurs personnes, au moment de se recueillir autour du cercueil, criaient leur détresse, leur tristesse, leur colère vis-à-vis de celui qui était parti. Il y a un déchirement, une séparation entre les morts et les vivants. La mort, c'est inadmissible. La mort, ce n'est pas normal. Et Dieu a pourvu à une solution, parce que ce n'est pas normal. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu sauveur. Dieu et la mort, Dieu et le mal ne sont pas compatibles. D'où vient le mal et la mort ? Nous ne savons pas pourquoi cette maladie spirituelle mortelle nous a infectés. Nous ne savons pas exactement d'où elle vient. Oh oui, Adam et Ève ont péché. Et depuis, nous reprenons à notre propre compte ce péché qui nous conduit à nous détourner de Dieu. C'est la partie sombre qui est là, sur la fresque. La partie noire. L'homme en prise avec le mal et la mort. mais Dieu a pourvu à un moyen, cette croix, au centre de l'histoire. Et c'est ce que Paul dit au verset 5 et au verset 6. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà le message de l'Évangile. Voilà la vérité à laquelle Dieu souhaite que tous les hommes parviennent. La connaissance de cette vérité, de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par moi. » C'est Dieu qui nous réconcilie avec lui-même en Jésus-Christ par cette mort à la croix où Jésus a porté pour nous le châtiment que nous méritions à cause de notre révolte contre Dieu. La dette est effacée. Notre péché peut être derrière nous si nous mettons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Le médiateur, celui qui est venu entre Dieu et les hommes, vous savez, le médiateur, c'est celui qui essaye de réconcilier deux parties qui s'opposent. Dieu et les hommes étaient et sont encore, pour une grande majorité, en conflit. Dieu est en colère contre les hommes à cause de leurs fautes, à cause de toutes les injustices qui sont commises dans ce monde. Et l'homme est en colère contre Dieu parce qu'il imagine que Dieu lui a joué un mauvais tour en le limitant dans ses capacités, en l'empêchant d'être comme Dieu. Et ça, c'est le mensonge que le diable essaye de nous faire croire, que la créature et le créateur pourraient être des égaux sur le même plan d'égalité. Dieu, nous dit Paul en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, nous réconcilie avec lui-même par le Christ. Jésus-Christ a servi lui-même de rançon, il nous a rachetés. Il s'est offert pour tous les hommes. Après, les hommes choisissent d'accepter ou de refuser. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le texte ne dit pas « Dieu va sauver tout le monde, on ira tous au paradis ». Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que les hommes entendent ce message qui dit « Il y a une solution. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire partie de ceux qui sont sauvés. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. » Ce message, Paul ne l'a pas inventé lui-même. C'est ce qu'il dit au verset 7. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. De ce message d'amour pour tous les hommes, Paul a été fait le témoin. Il parle de prédicateur. Il a été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Prédicateur, c'est celui qui annonce un message, une bonne nouvelle. Apôtre, c'est celui qui est envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et l'enseignant, c'est celui qui va construire sur cette bonne nouvelle qui est annoncée. Et Paul a ce rôle particulier d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux non-juifs. Jésus est venu. Le Christ est venu en tant qu'homme juif, mais ce salut, comme Peter nous l'a rappelé tout à l'heure, est annoncé à toutes les nations. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Paul a cette mission particulière d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Et il nous invite ce matin, nous aussi, à annoncer cette bonne nouvelle autour de nous et à prier pour tous les hommes. Dieu nous donne ici deux moyens par lesquels il veut se faire connaître à nos contemporains. Annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle que Jésus est venu mourir à notre place pour nous sauver du péché et de la mort et pour nous conduire vers le Père pour avoir une vie éternelle auprès de lui. Et il y a aussi ce deuxième moyen qu'est la prière. Prions pour tous les hommes. Je m'arrête là pour ce matin. dans ces 7 premiers versets de 1 Timothée 2, Paul nous invite donc à prier de différentes manières pour tous les hommes, et en particulier pour ceux qui nous gouvernent. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître cette vérité que Jésus seul peut nous réconcilier avec le Père. Il n'y a pas d'autre nom, d'autre personne, d'autre moyen qui nous a été donné pour être sauvés. Et toutes les religions du monde peuvent nous proposer toutes les solutions possibles pour que nous essayions de faire quelque chose pour que Dieu nous aime. Tout cela ne sert à rien pour être sauvé. C'est Dieu qui est venu du ciel pour nous sauver en Jésus-Christ. Prier, c'est être associé à ce projet de Dieu de sauver tous les hommes. Nous ne sommes ni spectateurs, ni auteurs de ce projet. Mais nous pouvons prendre notre place d'acteur dans ce grand projet de Dieu. Nous avons un rôle important à jouer, nous, hommes et femmes, chrétiens et chrétiennes, ensemble. Prions pour que ce monde connaisse le seul vrai Dieu et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Que le Seigneur nous encourage à prier cette semaine dans ce sens-là. Amen.